Exode au chapitre 12, on a lu le chapitre au complet ce matin. Et là, j'aimerais seulement lire quelques versets parce que je veux m'arrêter sur spécialement un verset et même un bout de verset, mais vous allez voir pourquoi. Mais on va lire à partir du verset 24. Mais je veux vraiment souligner une vérité ce matin. Donc, on est là dans Exode 12, verset 24. « Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants en perpétuité, donc tout ce qu'il a donné comme instruction sur la Pâque. » Verset 25, « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donne selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants diront, « Que signifie pour vous cet usage? » Vous répondrez, « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. » Seigneur, on vient à toi. Alors qu'on a ta parole d'ouverte, on te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre intelligence. Et Seigneur, on ne veut pas juste être éclairé dans notre intelligence, notre compréhension, mais Seigneur, on veut que nos cœurs soient réchauffés, que le feu de l'amour de Christ pour Christ soit ravivé en chacun de nous. Seigneur, on ne veut pas être des auditeurs oubliés, puis on ne veut pas non plus être tièdes. Puisses-tu, Seigneur, faire ton œuvre au milieu de nous pour créer pour toi, pour ta gloire, un peuple bien disposé face à ta parole et à ton amour révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Seigneur, on sait que ta parole est vivante et qu'elle transperce les cœurs, comme on a prié ce matin. On te prie, si quelqu'un est ici encore sans Christ, qu'aujourd'hui puisse te connaître, toi, le seul vrai Dieu. On s'en remet entre tes mains, Seigneur, avec confiance et avec attente, parce qu'on te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc, le bout que je voulais vraiment vous faire remarquer, c'est le peuple s'inclina et adora. Et remarquez que cette réaction du peuple, c'est après avoir reçu des instructions sur le comment de la Pâque. Il dit, vous allez prendre un agneau, vous allez prendre de l'hysope, et tout ça. Bon, on l'a lu, là, pour ça qu'on a pris le temps de le lire. Et donc, il était face à la parole de Dieu et toute la signification et l'importance que tout ça transmet, c'est très grand pour le peuple d'Israël qui était à l'époque ici avec le Passover, je vais passer au-dessus, et toute la notion du sang, puis de l'agneau pascal et tout ça. Bon, c'est pas parce que je me suis trompé, là, mais j'aimerais qu'on remarque que il y a ici une réponse à la parole de Dieu qui est de s'incliner et d'adorer. Et un chrétien qui adore l'Éternel en esprit et en vérité doit avoir l'esprit éclairé par sa parole. On n'adore pas n'importe comment, c'est en réponse à ce que Dieu nous révèle. Et donc, pour que l'adoration soit authentique, elle doit venir de la révélation de Dieu telle que trouvée dans sa parole. Et la parole, dans tous ses enseignements, doit nous conduire à l'adoration. On ne fait pas juste lire un livre puis dire « Ok, j'ai lu ce que je devais lire. » Non, ça doit nous conduire à adorer le Dieu qui se révèle à nous dans la parole. Il y a vraiment ici une complémentarité. La parole qui nous est révélée nous amène à adorer le grand Dieu que nous adorons en esprit et en vérité. On adore en esprit, c'est notre motivation, c'est le feu, si vous voulez, qui nous anime. Et la vérité, c'est la parole, c'est le fondement sur lequel est assise cette adoration. On comprend donc qu'il y a une complémentarité entre la vérité, l'amour, l'esprit, la parole, OK? Et je dirais même peut-être une tension entre deux pôles. Le pôle de la vérité, hein, les paroles, les instructions que Dieu nous donne pour nous révéler qui il est. Et aussi hein, l'amour. L'amour, c'est notre adoration, notre motivation, et je dirais, quand on comprend bien l'amour biblique, c'est notre inclinaison à accepter de souffrir pour le bien et puis le péché des autres. C'est la passion de Christ, qu'on appelle ça la passion de Christ, c'est ce qui l'a amené à lui donner l'ultime sacrifice pour souffrir pour le bien puis le péché des autres. Et donc la question ici, c'est pas est-ce que je choisis l'amour ou la vérité, c'est pas un ou l'autre ou un plus que l'autre, mais le parfait équilibre des deux. Tel qu'incarné et représenté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc on voit, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est Christ notre justice dans l'adoration. Et vraiment, il y a une équation biblique qu'on doit comprendre. La vérité plus l'amour égale la justice. Parce que vous regarderez dans 1 Jean, là, c'est clair. Jean nous parle beaucoup de vérité, hein, c'est... Et puis, tout ce pôle-là qui est présenté dans 1 Jean avec, par rapport à ceux qui sont dans la vérité versus ceux qui sont dans le mensonge, Christ, Antéchrist, tout ce côté-là. Puis aussi de l'amour, l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères qui est une démonstration de qu'on a réellement l'amour de Dieu. Mais ce que Jean amène, c'est que ça, réuni ensemble, c'est ça, la justice. C'est les deux ensemble. Et ça nous aide à comprendre que cet équilibre est tellement important pour qu'on le recherche dans nos vies pour l'atteindre afin de marcher dans la justice de Dieu. À ce niveau-là, je veux juste vous donner une couple d'explications. Le mot justice, ça veut simplement, quelqu'un vous demande c'est quoi une définition de la justice, c'est remplir les exigences de la loi parfaite de Dieu. Si on veut être juste, il faut faire tout ce qui est dans la loi. C'est ça, la justice, c'est remplir les exigences de la loi de Dieu. C'est pour ça que Jésus est si important. Lui qui n'a point péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est pas que nous, on a accompli la justice de Dieu, mais en lui, il l'a accompli pour nous. Il est celui qui est notre substitut, qui a fait à notre place qu'on n'aurait jamais pu faire. Écoutez aussi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Et aussi, on comprend, ça nous dit, je donne deux autres passages par rapport à la loi versus accomplir la justice de Dieu. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça nous dit aussi dans Galates 6:2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Autrement dit, j'accomplis la justice de Dieu en Jésus-Christ lorsque j'aime, ça c'est la motivation, selon la parole, ça c'est le standard. Et là-dessus, il y a un passage tellement précieux qui nous montre comment tout ça est accompli en Jésus-Christ. Parce que, vous savez, dans Romains 8, qui est un extraordinaire chapitre, hein, qui commence avec « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ », puis ça termine avec « Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ », donc de zéro condamnation à zéro séparation. Ça nous dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et ça nous explique ici l'importance de l'incarnation, parce qu'au verset 3, ça dit « Car chose impossible à la loi », parce que la chair la rendait sans force. Autrement dit, je vais me lever un matin, je vais dire, je vais accomplir la loi de Dieu, c'est impossible. Parce qu'avec ma chair, je veux dire, on ne peut pas plaire à Dieu par notre chair, OK? Donc, chose impossible, OK, à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accompli en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Wow! Ça, c'est l'accomplissement de ce qu'on parle aujourd'hui, la justice de Dieu dans l'adoration. Et c'est tout en Jésus-Christ, par lui, pour sa gloire. Ce n'est possible que par la grâce rédemptrice qui est en Jésus-Christ. Et ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est que cet équilibre-là est à rechercher pour chacun, mais qu'on arrive tout le temps, tous et chacun d'un chemin différent. Il va sans dire qu'ici, chacun arrive avec, surtout spécialement en ce moment, là, à travers les deux dernières années, notre Église a grandi en unité, mais aussi en diversité. Et donc, on pourrait dire que il y a beaucoup, on pourrait dire deux types de milieux desquels les gens ici sont issus, si on fait un portrait général. L'un centré beaucoup sur la parole, ok, sur la vérité, puis ok, et l'autre plus sur l'adoration, l'expérience, les émotions. Vous savez vous comprenez de quoi je parle. C'est pour ça que je pense que le message est bon ici pour tout le monde, parce que ça va nous aider à comprendre. C'est pas une question de il y a les bons puis il y a les méchants, c'est la question de comprendre qu'est-ce que je cherche. Et l'équilibre parfait est ça qu'on doit rechercher entre la vérité et l'amour. La vérité et l'amour, ou je pourrais dire aussi la justice et l'adoration. Et ça, c'est ce qu'on recherche en Jésus-Christ Dieu, et recherche les adorateurs qui l'adorent en esprit puis en vérité. Puis écoutez ici, deux passages qui nous parlent de cet équilibre-là. Ça dit « Entretenez-vous ». Puis là, c'est toutes des choses qui ont rapport avec la parole. Par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, la parole dans nos cœurs amène la louange. Et aussi, ça dit, encore plus clairement dans Colossiens 3:16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Voyez-vous comment le fondement de la parole aboutit sur l'adoration? C'est une complémentarité, l'un ne va pas sans l'autre. C'est ici, juste un, ça serait une orthodoxie morte, et juste l'autre, ça serait juste un semblant d'adoration qui n'a pas le fondement de la parole. Donc les deux doivent être là en parfait équilibre. Et vous savez, des fois je dis... j'ai quelque chose pour piler ses orteils à tout le monde, ou quelque chose pour offenser chacun ici. Je dirais plutôt aujourd'hui que j'ai quelque chose pour faire réfléchir tout le monde. Que chacun puisse être prêt à se remettre en question face à ce que la parole de Dieu nous dit, et qu'on puisse simplement, devant Dieu, le laisser nous montrer ce qu'il a pour nous avec les vérités qu'on considère aujourd'hui. Donc, je veux qu'on regarde deux puissances spirituelles à équilibrer pour manifester Christ, notre justice, dans l'adoration. Il y en a ici qui ont le côté justice fort. Là, je pense à certains, je ne regarderai pas. C'est pas correct, c'est de même. Puis il y en a qui ont le côté compassion fort, puis ça. Puis que, tu sais, ah, ben, faut qu'on aime, puis tout ça. Fait que c'est pas, ah, ça, les justices, c'est les bons, puis les. Ça se complète! Puis c'est quoi? En Jésus-Christ, c'est parfaitement... Jésus-Christ était parfaitement juste et aussi tout à fait compatissant. Il s'était réuni dans Christ, le Dieu vivant, incarné, qui nous a montré cet équilibre parfait. Donc, deux puissances spirituelles à équilibrer pour manifester Christ, notre justice, dans l'adoration. D'abord, il y a la puissance de la parole de vérité. La puissance de la parole de vérité. Remarquez ici, quand ça dit qu'ils sont tombés, le peuple s'inclina et adora. C'était ici la réponse à la grâce salvatrice telle que manifestée par la parole. Dieu, nous on voit ça, ah, c'est des instructions, il fallait qu'ils prennent dans un bassin du sang puis mettre ça là. Mais tout ça nous pointe à Christ, tout ça c'est la solution à cette mort, à cette menace, puis à ce gros nuage noir qui planait au-dessus d'eux, et Dieu leur montrait l'issue de secours. Et on sait que ça c'est dans le domaine physique, parce que là c'était la mort physique, puis cet ange qui passait au-dessus, mais c'est une image, hein, tellement puissante de la rédemption en Jésus-Christ, avec toute l'idée du sang, puis ça, c'est tellement riche, on pourrait passer plusieurs messages à tout décortiquer ça. Mais ce que je veux amener, c'est que face à ces instructions de la parole de Dieu qui a été donnée, il y avait une adoration spontanée. Ils se sont inclinés, puis ont adoré. Ils n'ont pas besoin d'être forcés, d'avoir des cours de formation de disciples. Non, c'était la réponse du cœur à la révélation de Dieu et de sa rédemption. Un peu comme Ésaïe, lorsqu'il a vu le temple, hein, Dieu dans son temple, avec le pan de sa robe qui remplissait tout. C'est vraiment une image de la gloire de Dieu. Il ne s'est pas dit, ah, mais tiens, peut-être que ce serait une bonne idée d'adorer Dieu. Non, la réponse de son cœur a été comme ça, de tomber devant un Dieu si grand. Donc, on voit là l'importance d'être enseigné droitement dans la parole. Et je vais vous expliquer pourquoi, mais ça dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé, comme un homme éprouvé, pardon, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Tant les non-sauvés que... les nouveaux sauvés que les chrétiens de longue date, nous avons tous besoin d'être instruits dans la parole, d'être enseignés selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire les choses en proportion. On doit comprendre les choses de la parole telles que Dieu les enseigne, ou aussi au niveau de la proportion, on doit être enseigné selon tout le conseil de Dieu. On ne doit pas partir sur une chire d'un bord parce avec ce que nous on aime ou nos préférences. On doit prendre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui fait notre affaire, ce qui ne fait pas notre affaire. Ce dans quoi on peut être bon, on a des forces, ce dans quoi aussi on a des faiblesses. Tout. Et l'expression de l'analogie de la foi, c'est que la Bible s'explique par la Bible. Un passage qu'on ne comprend pas, qui peut être obscur, il doit être interprété à la lumière de ce qui est clair, de ce qui n'est pas obscur. Dans ce temps-là, la Bible, on voit qu'elle est cohérente, qu'elle est un tout qui se tient ensemble, sans se contredire. Et il est vital et important que notre direction spirituelle dans notre vie ne soit pas au service et à la merci des fluctuations de nos émotions, de comment qu'on peut se sentir, mais elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Sinon, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ou pour le dire dans les mots de Jacques, ça donne quelqu'un qui doute, qui est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Et donc, on n'est pas des chrétiens qui sont à la merci de nos états d'âme, parce que nous avons tous des états d'âme, on vit tous des choses, mais le fondement de la parole, c'est ce qui nous donne la stabilité. Et vous savez, certains chrétiens sont très instables dans leur marche parce qu'ils ne sont pas assis solidement sur le roc, le fondement de la parole de Dieu. Ou pour le dire dans les mots de Colossiens 2:7, ainsi donc, 6 et 7, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Voyez-vous encore les instructions, le fondement? Ça donne le fruit de l'adoration, on abonde en action de grâce. Mais le fondement doit être là. Et je dirais que les deux dernières années ont beaucoup révélé de quoi, de quel matériau, de quel fondement, de quoi était fait le fondement de beaucoup de chrétiens. Parce que face à la tempête, leurs ruines ont été grandes. Et même en ce moment, quels sont les choses qui t'enracinent, qui te donnent cette solidité dans les tempêtes de la vie, dans les tempêtes de nos propres émotions, puis comment qu'on peut se sentir par rapport aux choses. Mes amis, la parole, c'est pas un plus qu'on rajoute. La parole, c'est le fondement même. On doit être des chrétiens qui, non seulement connaissent la parole, mais qui la portent dans leur cœur, c'est le plus grand trésor, comme le psalmiste dit. Lorsque je suis devant ta parole, c'est comme lorsque je découvre un grand trésor. C'est plus précieux que tous les grands trésors. Ou écoutez aussi Ecclésiaste, que ça dit Ecclésiaste 12:13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. La parole nous aiguille, elle nous pique dans les côtés pour nous dire « Hey, tu t'en vas du mauvais bord », mais aussi elle nous ancre. Être planté, c'est ici, lorsque ça parle de réunir ensemble, c'est planté comme des clous. L'idée, c'est la stabilité de la parole. Lorsque la parole est dans nos vies, elle nous donne cette stabilité face aux aléas de la vie. Et combien notre Église a besoin de cette maturité spirituelle afin que l'œuvre de Christ grandisse et fleurisse contre vents et marées, dans le marasme de ce monde instable. Ce monde est tellement instable, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et d'ailleurs, c'est un rôle que l'Église a d'être un phare. C'est quoi un phare? Hier, j'étais dans une tempête, puis je vous dis, il n'y avait pas de phare, mais il y a des bouts, j'avais de la misère à voir la route. Puis, un phare, c'est ça, quelqu'un, puis j'ai pensé à ça. Hé, quelqu'un qui est sur le fleuve en ce moment, là. Même un gros bateau, je me suis dit, hé, pour ça que moi, j'ai pas le pied marin. Imagine être dans une tempête, là. En tout cas. Mais c'est ça, c'est que l'idée, toi, tu bouges sur l'eau, mais le phare, il bouge pas, lui. Il est là, il est planté. Si le phare il bouge, là, ça veut dire que vraiment, là, c'est ça. Mais c'est ça, l'Église est un phare. L'Église ne doit pas changer dans ce monde changeant parce que le fondement, c'est la parole.
Amen.
Pourquoi les chrétiens changent? Parce qu'ils se déplacent du fondement. Pas parce que Dieu a changé, parce que les chrétiens se déplacent du fondement de la parole.
Amen.
Et c'est ça la force de ceux qui bâtissent sur le roc des paroles de Jésus-Christ et non sur le sable mouvant, des émotions, des pensées humaines, des tendances humaines. Mais tout ça, mes amis, c'est pas juste une simple mécanique, c'est pas juste une simple mécanique, mais c'est tout aussi vital qu'il y ait du cœur, de la passion dans cette parole, dans l'amour de la parole. Sinon, comme je le disais tantôt, ça va être simplement de l'orthodoxie morte. Ou pour le dire dans les mots de Colossiens 2, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Non, vraiment, la parole de Dieu, elle est dans nos cœurs et elle est transmise par la passion d'adorateurs vivants qui, par le lien de la paix qu'est l'amour, transmettent cette vérité précieuse. Donc, c'est la deuxième puissance, non seulement... La première, la puissance de la parole de vérité. La deuxième puissance, c'est la puissance de l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Rien ne peut et ne doit remplacer le feu sacré de l'amour de la vérité. Et pour des adorateurs de Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, il n'y a aucune théologie, doctrine qui peut remplacer la vie de l'amour selon la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes, qui connaissent la vérité et tout ça, mais sont sans vie. C'est juste comme une coquille vide. C'est vraiment vital qu'il y ait ce réel amour qui anime le cœur. Et bien plus, l'amour... Selon la vérité, l'amour de la vérité, c'est à l'image de Jésus-Christ qui, dans son incarnation, lui-même montrait justement c'est quoi tout le fait que ce Dieu qui s'est révélé comme étant le seul vrai Dieu, comment il est venu dans son amour, comment il s'est révélé dans cet amour pleinement en Jésus-Christ. Et pour nous, c'est lui que nous proclamons en tant qu'ambassadeur de Christ. Vous connaissez ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Savez-vous, c'est quoi qui fait la motivation? C'est quoi? Le feu sacré de ces ambassadeurs de Christ qui proclament ce message de réconciliation, cette parole de réconciliation, c'est l'amour de Christ. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ nous presse. L'amour, c'est la puissance motivatrice pour proclamer, pour faire avancer la vérité. C'est pas juste une vérité froide qu'on donne comme ça, comme un dépliant, puis il lit ça. Non, ça vient d'une considération profonde pour les besoins des gens, puis voir la situation des gens qui sont perdus sans cette vérité, et cet amour va vers eux, et en payant le prix. Et j'ai parlé de Christ qui a payé le prix ultime, Jean 3,16, c'est la plus grande démonstration, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on regarde aussi chez ceux qui ont suivi Christ, l'Église primitive, dans le livre des Actes, n'est-ce pas qu'on voit que cette Église naissante qui vivaient dans une époque de grande opposition. Hein, dès les débuts, on voit là, ça, tant à Jérusalem que tous les endroits où est-ce que elle a pris son expansion, cette église était face à beaucoup d'opposition. Mais Jésus-Christ, qui est la vérité, était proclamé par les apôtres, par cette église naissante. Et la force qui les motivait, c'était l'amour. Moi, un des passages que j'aime beaucoup par rapport à ça, on voit ça chez les Macédoniens, qui, dans leur grande pauvreté, avaient ce désir que la parole se propage, d'aider les frères à Jérusalem, les frères et sœurs. Mais aussi, écoutez ce que ça nous dit dans Actes 19. Plusieurs de ceux ici, c'est à Éphèse, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi, par ce don de soi, par ce sacrifice, par cette réponse à la vérité, qui est l'amour brûlant d'un cœur qui aime son Seigneur. C'est ce qu'on voit à travers le livre des Actes. Et lorsque, par l'adoration vivante et exclusive, parce qu'ici, il avait adoré d'autres dieux et tout ça, mais là, il était venu à adorer le seul vrai Dieu, et c'est lui seul qui l'adorait. Lorsqu'on a cette adoration vivante et exclusive du Dieu vivant et saint, ça produit ce genre de fruits. Et c'est ça que le Seigneur utilise pour faire croître son œuvre. Et j'aime quand ça dit, car c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voyez-vous, la parole, la vérité, croissait par l'amour que les chrétiens avaient pour lui, les uns pour les autres. Et c'est tellement beau de voir ça dans le livre des Actes, cette simplicité, ce premier amour qu'on voit. N'est-ce pas plate? Et décevant de voir que cette église d'Éphèse, on apprend dans laquelle ils avaient abandonné leur premier amour. C'est pour dire que personne n'est à l'abri. On doit toujours se réfugier en Christ notre Seigneur. Et je crois que Dieu nous appelle en ce moment, dans notre société où est-ce que nous sommes en ce moment, nous appelle à ce genre de réponse à qui Dieu est, avec un amour qui adore Dieu et qui en paye le prix, le grand prix. C'est pour ça que c'est tellement important que nous, ici, comme Église, nous soyons unis dans la parole, en esprit puis en vérité. Pas juste unis parce que ça fait notre affaire puis on est donc tous pareils, parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais selon la parole de Dieu, c'est ça qui est notre cause pour nous unir. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En tant qu'Église, c'est ça notre appel. Et c'est l'œuvre dans laquelle Dieu nous appelle et à laquelle lui nous intègre. Dieu fait son œuvre. Vous savez, on peut regarder le monde, puis c'est un piège en ce moment. On peut regarder au monde, puis voir comment les choses vont pas bien, puis tout ça. Puis, je veux dire, on n'est pas naïf, c'est vrai que ça va pas bien. Là. Puis, je veux dire, en fin de semaine, quand j'étais chez mes beaux-parents, j'ai écouté à peu près 5 minutes de nouvelles, puis je dis, oh, mon ami, c'est déjà trop. Fait que là, t'as une affaire, puis t'as l'autre, puis tu sais, c'est comme... choisissez dans le buffet des catastrophes qui peuvent arriver là, puis il y a des peurs que vous pouvez alimenter, puis... Je dis, oh, mon ami, c'est malsain, ça, c'est pas... Donc, c'est pas qu'on est naïf, puis qu'on renie le fait qu'il y a des problèmes dans le monde. Mais ça veut quoi? Dieu règne, et Dieu est vivant, et si on est encore là, c'est parce que Dieu est en train de faire son œuvre à travers son corps, nous, son Église. Et donc, on est appelé, au lieu de regarder à gauche et à droite, de regarder à lui et ce que lui est en train de faire pour se glorifier. Et pour ça, il faut qu'on soit fondé dans la parole, mais il faut aussi qu'on ait le feu sacré de l'amour de Dieu pour Dieu qui nous fait avancer. Donc, j'espère qu'on comprend mieux avec simplement cette pensée ce matin. La vérité versus l'amour. Christ, notre justice dans l'adoration, J'espère qu'on comprend que c'est pas une question, ah ok, moi je suis côté amour, puis moi je suis côté vérité. Non, c'est plutôt comment arrimer, agencer, harmoniser les deux dans une dynamique spirituelle vivante, vraie et authentique. Et là, qu'est-ce que ça va donner? Encore la parole de Dieu nous l'amène. Mais professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est seulement de cette manière que vraiment on va pouvoir accomplir la justice de Dieu. Ce n'est pas en nous, c'est Christ en nous. Et l'ultime accomplissement, c'est ça, c'est lorsque ces deux grands pôles, ces deux puissances sont à l'œuvre et équilibrées l'un avec l'autre. C'est là que, comme ça dit dans Romains au chapitre 4, au chapitre 8, verset 4, « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » En fait, tantôt quand je disais qu'on a chacun de différents arrière-plans, au lieu de dire arrière-plan, on devrait dire qu'on a chacun des tendances de la chair. Nos chairs ont une certaine disposition. Certains par rapport à plus à être côté justice, vérité, c'est comme ça. Puis d'autres plus le côté compassion, puis ça prend de l'amour, puis tout ça. Puis la chair peut tomber dans des pièges de même. Puis c'est des contrefaçons. C'est pas l'authentique vérité, justice de Christ, c'est pas l'authentique amour, compassion de Christ. C'est des contrefaçons de la chair. Et c'est ça, le piège. Et lorsqu'on on adore Christ en esprit puis en vérité, c'est pas une game, c'est pas du fake, c'est Christ en nous. C'est par son esprit, c'est lui qui le fait. Écoutez à ce sujet-là, Philippiens 2, 12 à 14. Ainsi, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais encore bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Si pour moi la vie chrétienne c'est devenu un fardeau puis que je me tire les pieds, c'est parce que je marche par la force de la chair. Parce que la chair a fait un bout sur les bonnes intentions puis sur la motivation personnelle, ma menace fatigue. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Je sais pas si vous essayez. Peut-être hier, ça aurait pu marcher, là, mais l'humain n'est pas fait pour voler avec ses petits bras comme ça. Peut-être qu'hier, je n'aurais vu un, puis là, j'aurais dit « Oh, wow! » J'ai vu des oiseaux qui avaient de la misère, ou qui avaient peut-être pas assez de misère, ils faisaient juste ça de même, puis ils volaient, tu sais. Pauvres oiseaux, puis je me suis dit « Où est-ce qu'ils se cachent, eux autres? » Pour moi, ils se mettent en dessous des feuilles, ou je sais pas trop. Oh, ils ventaient hier, c'était incroyable.
Ils volaient
à reculons. Ils volaient à reculons, ouais, sur le bric à bras. Je sais pas si c'est un bric à bras après un oiseau. Mais tout ça pour dire, c'est ça, c'est on est dans le surnaturel. La vie chrétienne n'est pas une vie charnelle avec une espèce de plus-value, puis « OK, Dieu m'aide ». Non, la vie chrétienne est toute surnaturelle, c'est par l'esprit, c'est pas comme « OK, j'essaie de mon mieux, puis Dieu vient m'aider ». Non, c'est rien de moi, tout de Dieu. C'est Christ qui vient à moi. Si je vis dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et donc, l'amour, parce qu'il est fondé dans la vérité, est un appel à souffrir dans un monde qui est dirigé par le père du mensonge. À quoi on peut s'attendre si notre Seigneur est venu et qu'il a été traité comme il est? À quoi peut-on nous attendre, nous, ses enfants, nous, son corps? Notre part, c'est d'accepter de souffrir pour le bien puis le péché des autres, parce qu'on marche dans la vérité, parce que nous nous tenons dans la vérité. C'est ça le prix. Si on veut dire la vérité, marcher dans la vérité, il y a un prix à payer. Mais par amour, on accepte de le faire. C'est ça notre appel dans ce monde. C'est ça que Christ, notre tête, est venu faire et c'est ce que nous continuons par sa grâce dans ce monde. Et dans notre vie, ça veut dire que lorsque le Seigneur nous place dans des situations qu'on n'aime pas, désagréables, qu'on n'aurait pas choisies, où est-ce qu'on est appelé à souffrir pour le bien des autres, mais aussi à cause qu'ils ont péché, des fois contre nous, des fois contre d'autres, des fois contre eux-mêmes. La réponse chrétienne, c'est d'accepter cela, et c'est notre acte d'adoration. C'est comme ça que la justice de Dieu s'accomplit en nous, qui sommes ses enfants. Ah, mais attention aux réactions typiques qu'on peut avoir pour essayer de prendre une mauvaise porte de sortie. Au lieu de faire ce que je viens de dire, on peut s'appuyer sur notre sagesse, sur nos plans, pour essayer d'éviter la souffrance, puis prendre notre porte de sortie. Been there, done that, got the t-shirt for it, right? On a eu le t-shirt, en tout cas, si on vendait des t-shirts de ça, de sortir de la souffrance, des épreuves que Dieu nous donne, je pense qu'on aurait tout un t-shirt écrit « J'ai sorti avant de prendre la porte de sortie du Seigneur », n'est-ce pas? C'est une réaction typique humaine. Une autre, c'est céder à nos raisonnements. N'est-ce pas que les armes avec les combats, lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu pour renverser les raisonnements? Puis aussi, on peut essayer de plaire à tout le monde, plaire aux gens autour de nous autres, pour essayer de s'en sortir. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le plus trompeur dans tout ça, c'est lorsqu'on prend cette sortie de secours qui n'est pas celle de 1 Corinthiens 10, 13, en passant, Christ est la sortie de secours. C'est lui, le moyen d'en sortir. Il est toujours suffisant, il est toujours là, il est fidèle. Il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Mais si on ne prend pas cette sortie de secours, souvent on va se justifier, on va se donner raison. Soit au nom de la compassion, piège de la chair numéro 1, soit au nom de « j'ai voulu faire ce qui était vrai selon la parole » et tout ça. Et c'est des contrefaçons de la chair. Et on fuit la mission rédemptrice que Dieu nous a donnée d'accomplir sa justice qui est par la foi. Que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus. Je dis des choses, mais il faut c'est spirituellement qu'on les discerne. C'est par le renouvellement de notre intelligence qu'on comprend ces choses. C'est pas assis sur un banc d'église un dimanche matin, malgré que c'est important d'être sur un banc d'église le dimanche matin, mais Dieu nous les montre dans la cruauté du quotidien, dans la dureté des relations humaines, dans l'imperfection. Ça marche pas les relations humaines, n'est-ce pas? Mais c'est là que Christ nous rencontre et c'est là qu'il accomplit sa justice avec sa vérité dans son amour. C'est là le rendez-vous, c'est là que ça se passe. Et lorsqu'on est motivé, parce que je vous ai parlé de renouvellement de l'intelligence, mais lorsque ma motivation c'est d'offrir mon corps, mes pensées, ma langue, tout comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, alors là sa justice va s'accomplir. Et là, je vais me rendre compte, waouh, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Est-ce que tu connais cette justice? Est-ce que ce matin, tu peux dire que devant Dieu, tu peux te tenir sans péché, sans tâche, que Dieu n'a rien à te reprocher? Il y a un seul moyen dans tout l'univers, dans toute l'histoire de l'humanité, où est-ce qu'on peut arriver devant Dieu comme ça, c'est par Jésus-Christ. C'est pas en se tenant nous-mêmes dans notre justice, mais dans celle de celui qui est mort pour nous. Personne ne peut présenter sa justice devant Dieu. Non, ce qu'on doit faire devant Dieu, c'est s'humilier et croire à celui qui est mort à notre place. C'est le point de départ. On a parlé d'adorer en esprit, par vérité, de vérité, d'amour. Tout commence là. Tout commence à la croix. Tout commence par Jésus-Christ. Si vous ne le connaissez pas, en ce moment, vous devez vous tourner vers lui par la foi et recevoir la vie qu'il donne gratuitement à tous ceux qui viennent à lui. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et pour vous, les enfants de Dieu, n'est-ce pas qu'on veut marcher dans la justice, mais la question c'est comment? Est-ce que je vais avec la chair? avec mes bonnes intentions. Un bon chrétien, une bonne chrétienne, mais la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Et c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'affranchit de cette loi du péché et de la mort qui me tire vers le bas, qui bousille tout ce que j'essaie de faire pour Dieu avec mes bonnes intentions puis ma bonne chair. Des fois, c'est une expression culinaire, ça, mais ben, c'est pas écrit de la même façon, mais avec ma chair qui paraît bien. Une bonne façon de savoir qu'est-ce qui me motive, quel est mon fondement, c'est quel est le fruit qui en produit. La Bible nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. La joie de l'Éternel sera votre force. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné une vie, « Ah, là, vous allez accomplir ma justice. » Ça va être dur, là. Vous allez n'arracher, genre, les pieds qui traînent, puis vous allez vous avancer. Non, parce que lorsque c'est Christ qui le fait en moi, il y a une joie, il y a une paix, il y a une liberté dans le Seigneur qui prend plaisir à ces choses. Et ce qui donne la joie, c'est qu'on dit, « Wow, ça, c'était pas ma réaction. Ça, c'était pas moi, c'était vraiment Dieu. C'est Christ qui vit en moi. » Est-ce que c'est ton aspiration qu'on puisse simplement aller à Dieu, qu'il nous ouvre les yeux sur ces choses et qu'il nous rende capables de les accomplir pour sa gloire? Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, le fondement. Merci aussi pour ton amour que tu nous révèles en Jésus-Christ. Merci aussi que tu as répandu ton amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, à nous tes enfants. Oh Seigneur, puisses-tu nous animer de cet amour pour avancer dans toute la vérité. Et Seigneur, dans ce monde hostile et ce monde sans espoir, sombre, Seigneur, tu nous as implanté comme étant le sel et la lumière. Oh Seigneur, que tu puisses luire, que tu puisses avoir cet effet positif à travers nous, ton corps. Et on regarde à toi ce matin. On n'a pas d'espérance en nous, on n'a pas on veut pas s'appuyer aucunement sur le bras de la chair, mais on vient à toi, Seigneur, comme étant notre vie, notre force, notre joie, notre paix, notre tout en tous. Ah, et Seigneur, si quelqu'un ici ne te connaît pas encore, on s'unit ensemble, nous, tes enfants, pour plaider pour le salut des âmes de ceux qui ne te connaissent pas encore, que ce soit ici, dans ce bâtiment, ce matin. Ou quelqu'un qu'on connaît, qui est proche, Seigneur, sauve. Sauve ceux qui sont perdus, qui sont encore dans leur offense et leur péché. Donne-leur la vie par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en son nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Amen.